fêtes en magasin et sur jardiland.com. Au programme, des offres exceptionnelles, des animations et surtout notre grand jeu anniversaire avec plus de 4,5 millions d'euros de cadeaux à gagner.
Jardiland, cultivez votre bien-être.
Conditions et listes des magasins participants sur jardiland.com.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Ensuite, le rappel des titres. Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Et ça y est, le voilà parti. Le trois-mâts français Belém a largué les amarres ce matin du port du Pirée, près d'Athènes, et il a entamé son voyage vers la France. Avec à son bord, bien sûr, la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le voilier est attendu le 8 mai à Marseille, où débutera ensuite le parcours de la flamme à travers le pays. C'est Florent Manaudou, quadruple champion olympique, qui a été choisi pour être le premier relayeur. Les étudiants de Sciences Po ont évacué l'école dans le calme la nuit dernière. Cela faisait plusieurs jours qu'ils bloquaient l'établissement en soutien à la cause palestinienne. L'école accepte la tenue d'un débat ainsi que la levée des sanctions à l'encontre des manifestants. Décision jugée scandaleuse par l'UNI, un syndicat étudiant, et à la réaction du Premier ministre Gabriel Attal.
À Sciences Po, comme dans nos universités, il y aura toujours du débat. Et des élèves et des étudiants qui voudront débattre. Et pour qu'il y ait du débat, il faut que les règles soient respectées, que le respect des positions des uns et des autres soit permanent. C'est pas ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu le spectacle navrant, choquant, d'une minorité, agitée effectivement par des forces politiques, et notamment la France insoumise, chercher à perturber le fonctionnement de cette institution. Et je le dis, je ne l'accepterai pas. Et donc la mobilisation sera totale encore dans les semaines et les mois qui viennent.
Le Premier ministre Gabriel Attal qui s'exprimait en marge d'un déplacement dans la Manche aujourd'hui après une visite de la foire au bulot de Pirou. Le Premier ministre doit se rendre en tout début d'après-midi sur une exploitation maraîchère lourdement touchée par les inondations des derniers mois. Il a d'ailleurs annoncé de nouvelles aides pour le secteur agricole. Parmi elles, figure la présentation promise début mai de la version définitive du nouveau plan éco-phyto de réduction des pesticides, de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations et l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation. D'un mot, le football avec le rugby. Les filles de l'équipe de France affrontent l'Angleterre à 17h45 avec l'espoir de décrocher une victoire synonyme de grand chelem.
Europe 1.
C'est Brandon Ouarette qui prend désormais le relais pour vous informer. D'ici là, vous retrouvez Isabelle Morizet et Guillaume Rocheron, deux fois oscarisés pour ses effets spéciaux. Bon après-midi sur Europe 1 et bonne émission Isabelle.
Merci Lénaïque. Le prochain point sur l'actualité à 14h sur Europe 1.
Europe 1, 13h-14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Georges Méliès, considéré comme le père des effets spéciaux avec en 1902 le premier film de science-fiction, Voyage dans la Lune, eh bien Méliès aurait adoré rencontrer Guillaume Rocheron, le génie actuel des effets spéciaux, deux fois oscarisé, un premier Oscar en 2013 pour l'Odyssée de Pi et le deuxième Oscar en 2020 pour le film de guerre 1917. Car Guillaume Rocheron donne à voir ce qui n'existe pas. Alors c'est une chance de recevoir ce Français qui fascine Hollywood et à qui le PITS Anguin, le festival en France des effets spéciaux, vient de remettre un génie d'honneur, carrément, voilà, c'est mérité. Je suis ravie de vous accueillir, Guillaume Rocheron.
Ben merci de m'inviter.
Alors, cher Guillaume Rocheron, c'est un fait. Depuis plus de 20 ans, les studios français spécialisés en effets spéciaux ont la cote auprès de Hollywood. Et vous êtes passé maître dans cet art qui consiste à nous donner à voir sur un écran ce qui n'existe pas, donc ce qu'on ne peut pas filmer. En fait, votre job, eh bien, c'est de créer des mondes, de l'émerveillement, de la terreur ou de la poésie avec des algorithmes.
Disons que on utilise des ordinateurs, mais c'est un petit peu comme si vous disiez qu'un dessinateur dessinait bien parce qu'il a des crayons. On travaille avec beaucoup d'artistes, et on utilise l'ordinateur comme un outil, mais aussi on travaille énormément avec des on va dire des choses qui sont vraies. On essaye toujours de fabriquer des maquettes, par exemple. On essaye toujours de filmer des explosions ou des effets pour en vrai, on va dire, qui vont ensuite faire contribuer au résultat final de ce qu'on fait. Mon travail, c'est de réaliser quelque chose qu'on ne peut pas juste mettre devant une caméra et filmer.
Donc, alors justement, quel est l'effet à l'écran le plus fou, le plus improbable qu'on vous ait demandé de récemment de créer ?
Disons que tous les films ont un challenge intéressant, on va dire, et c'est souvent ça qui m'intéresse. Moi, j'aime toujours un film, quand je le commence, je ne sais pas exactement comment je vais le faire. Ça, c'est le truc
vraiment
qui m'intéresse beaucoup. Oui, bah, c'est parce que c'est le challenge, ça demande de...
Il n'y a pas de recette, c'est ça ?
Disons que sur certains films, la recette ne marche pas. Donc il faut réinventer, et ça c'est une partie très agréable du métier, et de faire des films en général, c'est se renouveler à chaque fois, essayer de trouver des nouvelles idées, et je dis souvent, vous pouvez donner le même scénario à 5 réalisateurs différents, et vous allez avoir 5 films
bien
complètement
sûr,
différents.
Bien sûr.
Donc chaque fois que je travaille avec un nouveau réalisateur, ou un nouveau scénario, les paramètres sont très très différents. 1917, par exemple, c'était...
Le film de guerre qui vous a valu votre deuxième Oscar.
Oui, c'était inconcevable au départ. Ça veut dire de faire un film en continu pendant 2 heures. Et ça a demandé énormément de recherche, à savoir okay, comment est-ce qu'on va le faire, et de collaboration avec tous les autres groupes qui travaillent sur le film. Parce que par exemple, on tournait des scènes à Pinewood Studio dans le nord-ouest de Londres. Et voilà, les acteurs sortent d'un bâtiment et puis tout à coup, on devait transitionner vers quelque chose qu'on avait filmé à Glasgow.
Ouais.
Voilà, c'était vraiment une collaboration de savoir, OK, où est-ce qu'on peut tourner chaque petit morceau du film ? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut les raccorder ? Est-ce qu'il y a une technologie qu'on peut créer qui va nous aider à les raccorder ? Et 1917 était vraiment très intéressant pour ça, c'est qu'il n'y avait pas de recette. C'était vraiment chaque moment du film était un groupe d'artistes différents qui essayaient de trouver le code du coffre-fort, de comment rendre la transition invisible, etc. Et pour ça, c'était unique et extrêmement intéressant.
Alors, le code du coffre-fort, justement, vous avez commencé à le chercher très tôt, très jeune, Guillaume Rocheron. Vous n'aviez que 13 ans quand vous avez imaginé votre premier scénario pour jeu vidéo. Mmh. Mais à l'époque, on ne parlait pas encore de graphisme en 3D et on était seulement à l'aube d'Internet. Alors, comment vous êtes-vous débrouillé pour créer vos premiers courts-métrages d'animation tout seul comme ça au fond de votre chambre pendant que vos copains jouaient au foot ?
À 13 ans, j'ai commencé, j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction, heroic fantasy, j'ai vu Dune de David Lynch.
Ouais, ouais.
C'est des films qui ont inspiré, on va dire, mon imagination. Et c'est vrai que ma génération, c'est vrai, on était très intéressés par les jeux vidéo. Et je me suis dit, ah ben, je peux écrire une histoire pour faire ça. Et j'ai commencé à écrire une histoire avec des personnages, avec, ça faisait, je sais pas, 200, 250 pages de
wow,
description, voilà, d'écrire, on va dire, le scénario du jeu, en fait. Mais je savais pas comment le faire. Et j'ai travaillé avec une association qui s'appelait à l'époque Twin Face, qui regroupait en gros un peu tous les amateurs des gens comme moi, en fait,
oui,
un peu partout dans la France, pré-internet.
Donc oui,
c'était
oui, c'est
par
ça,
téléphone et puis par magazine.
On est au début des années 90.
Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai assemblé une petite équipe d'une dizaine de personnes, avec des programmeurs, des designers, des illustrateurs.
Du haut de vos 13 ans ?
Bah oui, qui ont lu le scénario et puis les gens se sont intéressés en fait. Et il y avait un petit engouement et on a créé quelque chose comme ça. On a créé un petit prototype, on va dire, pour le jeu. Et une des personnes qui faisait certaines illustrations m'a montré voilà, un programme pour faire de l'image de synthèse sur ordinateur. Et c'était tout au début.
Ouais.
Et ça m'a absolument fasciné. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi, je sais pas dessiner. Mais par contre, je fais beaucoup de photographie. J'ai toujours été intéressé par la photographie. C'est un truc, quelque chose
et
que j'ai
fait. Et il y a une connexion.
Il y a une connexion parce que un appareil photo, vous utilisez une machine pour faire de l'art.
Ouais.
Et c'est pas parce que vous avez un appareil photo que vous allez prendre des bonnes photos. Et avec un ordinateur, c'est un outil avec, pareil, une machine avec des paramètres et des fonctions,
voilà,
on va dire, et des règles.
Mais devant la machine, il faut le cerveau qui va permettre justement de créer des choses surprenantes.
Oui, et surtout de la passion, parce que moi, ce qui m'intéressait vraiment et ce qui me fascinait, c'était d'apprendre à faire ces images pour créer mon histoire, en fait. Je pense que j'ai toujours voulu raconter des histoires plus que j'ai voulu faire des images, en fait. Et très rapidement, j'ai abandonné mon idée d'écrire un jeu vidéo. Je me suis dit, bah, avec cet outil-là, je vais pouvoir faire des courts-métrages, des courts-métrages d'animation.
Des courts-métrages, et voilà qu'un jour, Guillaume Rocheron, l'un de vos courts-métrages d'animation, remporte un prix, alors que vous étiez toujours au lycée. Hein. Mmh. Et une boîte française d'effets spéciaux, très cotée auprès des studios hollywoodiens, la Buff Company, vous contacte, et vous, du haut de vos 16 ans, c'est ça, vous répondez pas, vous laissez filer.
Ben oui, parce que il faut dire qu'à cette époque-là, d'une, je savais pas ce que c'était Buff Company, et j'avais jamais rêvé ou même imaginé travailler dans le cinéma, en fait. C'était quelque chose qui était tellement inatteignable pour moi que voilà, je ne regardais pas vraiment ça. Et c'est vrai que je me souviens, c'était à l'époque où ils avaient fait le film Fight Club de David Fincher.
Oui.
Et je crois que c'était au journal, à la télé, il y avait un petit reportage sur. Voilà, sur les effets spéciaux de Fight Club et sur Buff, et puis j'ai vu le petit logo de Buff et je me suis dit, ah mais ils m'ont contacté ces gens-là. Et donc voilà, je les recontacte et ils ont été très ouverts à me former, on va dire. Ils m'ont dit, bon, on sait que t'es encore au lycée, mais viens travailler quand tu veux. On te forme, tu peux venir travailler chez nous pendant les vacances.
Attendez, on va creuser le truc parce que faut vraiment nous raconter. Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale. Vous allez passer un été miraculeux dans le hub de cette boîte d'effets spéciaux qui vous invite donc effectivement à travailler avec tous ces ingénieurs sur une campagne Airbus.
Oui.
Vous, le gamin, vous vous retrouvez embarqué à bosser sur une campagne Airbus.
Oui, c'était la première chose que j'ai touchée qui utilisait des images filmées, en fait, pour faire des effets spéciaux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Pendant quelques jours, j'ai travaillé là-dessus. Et puis après, il y avait le film Panic Room, après, de David Fincher encore, où voilà, j'ai contribué très modestement, on va dire, au film. Mais c'était mes premiers pas.
Mais voilà, il faut bien des premiers pas. Mais alors, sur la campagne Airbus, en fait, concrètement, qu'avez-vous fait ?
Alors c'était vraiment très simple, c'est une pub où la caméra, c'est un mouvement de caméra continu qui part du centre de la Terre jusque dans le ciel. Et quand on est dans le centre de la Terre, il y a une explosion de rochers. Et puis mon travail, c'était de détourer les rochers, ce qu'on appelle aujourd'hui de faire de la rotoscopie, donc de détourer les rochers pour qu'on puisse les intégrer sur un autre fond en fait, de détourer les rochers. Et voilà, il y a 24 images par seconde, donc voilà, détourer.
Donc c'est très méticuleux.
C'est très méticuleux.
Voilà.
C'est pas très intéressant à faire, mais ça apprend le métier.
Mais voilà, ça apprend le métier. Et surtout, ça dit qu'on vous faisait totalement confiance. Votre réaction, Guillaume, lorsque la campagne a été projetée sur grand écran, la première sensation?
Non, mais c'est toujours une sensation très bizarre. Et c'est une sensation que j'ai encore aujourd'hui à chaque fois que je vois un film sur lesquels j'ai travaillé au cinéma. Il y a toujours quelque chose de magique pour moi de voir un public, une salle remplie de cinéma qui regarde le film sur lequel j'ai contribué. Et pour moi, c'est une des grandes joies que j'ai de faire ce que je fais. Ça veut dire que de donner un peu d'avoir ce sentiment de donner une expérience, on va dire, à un public qui est là et qu'on peut voir. Et ça, c'est vraiment fantastique.
Alors ça, vous l'avez vécu à 17 ans. Vous ignoriez que 15 ans plus tard, vous remporteriez votre premier Oscar. Voilà, je reçois Guillaume Rocheron, génie des effets spéciaux, qui travaille avec les plus grands cinéastes des 5 continents. On fait une pause très courte. On se retrouve tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Carrefour.
Quand vous me dites « Le week-end, faut se faire plaisir !» Je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la bavette de bœuf 3 étoiles à griller, garantie prix le plus bas, à 13,99€ le kilo seulement. Alors, c'est parfait! Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Allemagne, Royaume-Uni ou Pays-Bas. Caissette de 800 grammes environ, détails sur carrefour.fr.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Demain, avec le journal du dimanche, retrouvez votre mensuel JDD Magazine. Le journal du dimanche plus JDD Magazine en vente demain en kiosque et en version numérique.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
À tous ceux qui disent « À table !» juste avant que le repas soit prêt. À ceux qui mettent les assiettes, comme ça, ça fera venir les autres.
« À table !»
À ceux qui commencent à servir, parce que de toute façon, il faut tout faire soi-même dans cette maison.
« À table !»
Et à ceux qui finissent par couper le Wi-Fi.
« À table !»
Jusqu'à samedi, Intermarché propose la côte de bœuf Origine France à seulement 14,90€ le kilo.
Ouais, bah ça va, c'est bon, j'arrive.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Viande bovine, côte 3 étoiles à griller.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Ce garçon-là invente d'autres mondes. Par son imaginaire et sa science, il nous donne à voir sur grand écran ce qui ne peut pas exister. Et pourtant, voilà, ce magicien des effets spéciaux qui fascine Hollywood s'appelle Guillaume Rocheron. Guillaume Rocheron, on continue de survoler le chemin fascinant qui vous a conduit par deux fois aux Oscars. Alors, on vous a quitté à 17 ans travaillant pendant les vacances sur les effets spéciaux d'une pub pour Airbus au sein d'une boîte française à Paris, Buff Company, déjà très prisée par les Américains. Et voilà que vous allez vous retrouver deux ans plus tard à travailler sur le film américain de David Fincher, Panic Room, avec Jodie Foster. Alors, sur ce film, vous avez eu pour la première fois l'occasion de travailler à partir d'images filmées, alors que à Paris, chez Buff Company, tout était programmé. Vous dites qu'il n'y avait pas d'interface. Est-ce que, en vulgarisant au maximum, bien sûr, hein, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence quand vous dites qu'il n'y avait pas d'interface?
Ben, disons qu'à l'époque, et c'est toujours le cas chez Buff Company, tous les logiciels sont créés par la boîte, en fait. Ça veut dire que les logiciels n'existent pas pour le grand public. Et à cette époque-là, les logiciels étaient faits pour une trentaine de personnes, pour nous, les artistes qui travaillons à la Buff Company.
Et c'est un choix de la boîte, alors que les Américains ne bossent pas comme ça.
Les Américains travaillaient un peu comme ça à l'époque aussi. Parce que c'est vrai qu'il fallait que ce soit pratique à utiliser. Et donc, à cette époque-là, faire une interface, c'était pas si important que ça. Il y avait des interfaces pour certains aspects.
Alors, faire une interface, ça veut dire
Avec la souris, vous pouvez cliquer sur des boutons, etc. Et puis, dire, voilà, je vais mettre ça de telle couleur, je vais faire comme... Vous avez une interface pour manipuler l'ordinateur.
D'accord.
Alors qu'à cette époque-là, on tapait du code, des lignes de code. Donc, on disait image A égale... Blablabla, image B égale blablabla.
D'accord.
Et après, on va assembler les deux images. Donc, c'était de la programmation
très longue
appliquée à la fabrication d'images.
D'accord. Bon, pour exercer votre métier de superviseur d'effets spéciaux, il faut être un artiste, mais il faut donc savoir coder aussi. Il faut être un rêveur en même temps qu'un ingénieur qui conçoit des logiciels, c'est ça? C'est pas toujours compatible. Hein. Les rêveurs sont pas forcément doués pour faire du code.
Oui, c'est vrai. Non, le métier a changé aussi beaucoup depuis cette époque-là, où maintenant les logiciels sont beaucoup plus accessibles. Et on essaye vraiment de rendre la technique beaucoup plus accessible pour qu'on ait des artistes de tout horizon qui puissent venir travailler avec nous. Mais c'est vrai que ça demande toujours... c'est un mélange de technique, de technologie et d'artisterie, en fait. Donc c'est vraiment... Faire des effets spéciaux, c'est un mélange des deux. Ça veut dire qu'on doit souvent, quand j'ai un problème à régler pour un réalisateur, c'est souvent une solution technique à laquelle je dois réfléchir, avec un but artistique.
Alors, généralement, ceux qui veulent travailler sur les effets spéciaux en France passent par l'école des Gobelins, ArtFX, ESMA, Isart Digital, Rubica. Vous avez choisi d'intégrer l'école Georges Méliès. Mm-hmm. Pour quelle raison?
Parce que leur programme me plaisait beaucoup, parce que moi, je cherchais avant tout à apprendre et à faire des images ailleurs que sur un ordinateur. Donc, ça veut dire que je voulais apprendre la sculpture, le dessin, la peinture, l'histoire de l'art, apprendre à observer le monde autour de moi et pas juste à travers un écran d'ordinateur, en fait.
Mais Guillaume Rocheron, vous étiez encore à l'école Georges Méliès quand vous avez rejoint l'équipe des effets spéciaux sur Matrix Reloaded, c'est-à-dire sur Matrix 2, réalisé en plus de 3 ans avec un budget de 250 millions de dollars. Quels étaient vos contacts pour atterrir ainsi, vous, très très jeune Frenchie, au cœur du cyclone à Hollywood?
Bah, disons que c'était toujours à la Buff Company en France qui travaillait sur les deux films Matrix Reloaded et Matrix Révolution. Et il faut croire qu'ils m'ont fait confiance.
Vous avez quand même, heureusement que vous avez vu ce film au générique duquel un soir vous avez repéré Buff Company en tiltant. Mais c'est pas eux qui ont essayé de me faire signe, parce que sinon vous seriez passé à côté de quelque chose de faramineux.
Ouais.
Donc ils vous faisaient extrêmement confiance. Alors vous partez donc aux États-Unis et vous bossez sur Matrix 2 et vous enchaînez avec Alexandre, d'Oliver Stone, Harry Potter, la Coupe de Feu, il va y avoir X-Men, l'affrontement final. Pour honorer tout ça, vous avez choisi de vous installer en Californie, c'est ça ?
Oui, alors, à cette époque-là, avant d'arriver en Californie, j'ai fait un passage par Londres. Et donc, quand j'ai fait Matrix, c'était encore à Paris.
Oui.
Alexandre de Oliver Stone, c'était à Paris aussi. C'était un des derniers films que j'ai fait à la Buff. J'ai dû faire Alexandre et Batman Begins de Christopher Nolan à la Buff à Paris. Et après, je suis parti à Londres, dans une boîte qui s'appelle MPC,
oui.
Pour travailler sur Harry Potter, Harry Potter 4. Et c'était un peu pareil, ils m'ont appelé en me disant, voilà, on a besoin d'artistes.
On vous veut.
On a besoin d'artistes pour nous aider pour quelques mois. Et je pensais partir pour 3 mois à Londres et j'y suis resté 4 ans ou 5 ans.
Vous y êtes resté 4 ans ou 5 ans. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas, à Londres, de différent?
Alors là, c'était intéressant parce que c'était la manière anglo-saxonne de faire des films. C'est très différent que l'approche française, on va dire, à cette époque-là. Où c'était beaucoup plus compartementalisé, c'était beaucoup plus ambitieux, les projets étaient beaucoup plus compliqués. Et ça m'a appris vraiment à approcher le travail en équipe, on va dire. Parce que quand j'étais un artiste à la Buff, souvent c'était moi qui faisais mes propres plans de A à Z, donc c'était s'il y avait un problème ou quelque chose, voilà, c'était à moi de le régler. Alors que en arrivant à Londres et en travaillant à l'anglo-saxonne,
vous soumettiez vos idées et là tout le monde bossait dessus, c'est ça ?
Voilà, j'étais encore un artiste en arrivant à Londres et donc je travaillais avec une équipe d'autres artistes pour réaliser un plan. Donc voilà.
Mais alors, comment ça se passe avec le réalisateur ? C'est le réalisateur qui vous dit là à ce moment du film, j'aimerais que telle chose improbable arrive dans le ciel, ou c'est vous qui lui dites « Là, je sens bien que je pourrais faire en sorte que le ciel s'entrouvre et que soudain apparaissent les monstres volants qui... » Bon, comment ça se passe ? Vous soumettez des idées ?
Disons que c'est une collaboration, mais il ne faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est à 100% au service de l'histoire.
Bien sûr. Donc, il y a d'abord les scénaristes.
Voilà, et ça commence toujours aussi par l'idée du réalisateur. Ça veut dire le réalisateur... Et le chef d'orchestre du film en entier. Moi, je suis le chef d'orchestre des effets spéciaux. Mais ça commence toujours par le réalisateur qui dit, voilà, dans cette scène, j'aimerais qu'il se passe ça, ça et ça. Parfois, les idées sont très précises. Parfois, les idées sont un peu plus, on va dire, vagues et un peu plus ouvertes à interprétation.
Là, vous préférez quand c'est plus ouvert à l'interprétation ?
Disons que c'est toujours agréable parce que la collaboration... Au final, c'est ce qu'il y a de plus important, la collaboration d'idées et de pouvoir mettre quelques-unes de mes idées dans un film ou des idées d'artistes qui travaillent avec moi. Et moi, j'aime toujours quand quelqu'un vient me dire « Tiens, j'ai une idée pour que ce plan soit plus intéressant. » Et parfois, voilà, c'est la meilleure idée qui gagne.
L'évolution des techniques dans les effets spéciaux, Guillaume Rocheron, elle est exponentielle, cette évolution. Est-ce que, par exemple, on peut dire que là, ces 10 dernières années, sont apparues des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 20 ans ? Et est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle risque de bouleverser encore complètement votre métier ?
Oui, alors la technique sur les 5 dernières années, change tout le temps. Je suis dans un métier où la technologie évolue extrêmement rapidement, parce que voilà, on cherche toujours des améliorations techniques pour soit créer des choses qu'on ne pouvait pas créer avant, soit les faire plus rapidement, soit les faire avec un groupe d'artistes peut-être qui est moins technique et plus artistique. Donc,
mais
voilà.
À la base, quand même, ils sont tous ingénieurs.
Non, pas du tout.
Plus maintenant. Incroyable.
Maintenant, voilà, vous pouvez être un illustrateur. Et à peine savoir utiliser un ordinateur.
Et faire partie de votre équipe.
Oui, c'est ça.
Incroyable. Voilà.
Parce que c'est le talent, on va dire. On a des gens qui sont très techniques, par exemple, qui sont nos programmeurs, et des gens qui vont faire... Il y a des tâches très techniques pour, par exemple, faire des simulations, ce qu'on appelle, on utilise des simulations de fluides ou des simulations de destruction et tout ça, qui sont des choses.
Oui, simulation de fluide. Quand vous, les scènes dont on va parler, par exemple, tournées sur des océans en colère, ouais, avec des vagues de 20 mètres de haut. Voilà. Bon, voilà. Donc tout ça, c'est en amont préparé, mais en analysant des prises de vue véritables.
Toujours.
Toujours.
Toujours. Par exemple, voilà, quand j'ai fait l'Odyssée de Pi, on devait donc recréer tous ces océans. Et à l'époque, techniquement, c'était faisable, mais très difficilement faisable. Et donc, du coup, on a dû faire de la recherche pendant, on a fait quoi, un an et demi de recherche et développement, juste pour développer la technique qui permette à nos artistes de créer ces océans, en fait. Et voilà, donc c'était, on va dire, infaisable à l'époque. Et notre travail, c'était bon, comment est-ce qu'on le réalise et comment est-ce qu'on aussi on raconte une histoire avec, parce que c'est ça qui est le plus important, et surtout quand vous travaillez avec Ang Lee, qui est avant tout
le réalisateur de l'Odyssée de Pi,
voilà, qui est avant tout un, on appelle un storyteller, quelqu'un qui raconte les histoires et qui pense beaucoup à tous les niveaux, on va dire, des images et de comment les histoires sont racontées. Vous devez avoir un contrôle incroyablement précis sur ce que vous réalisez, en fait.
Et bien justement, juste après la très courte pause qu'on va faire, on va rentrer en fait dans vos ateliers, que j'ai envie d'appeler des laboratoires, et dans les secrets, et on va évoquer tous les protocoles incroyables que vous avez mis au point pour l'aventure folle qui vous a amené le Graal, votre premier Oscar à Hollywood, l'Odyssée de Pi. Je reçois Guillaume Rocheron aujourd'hui. On fait une pause, on se retrouve tout de suite sur Europe 1.
Week-end sur Europe 1. Ce soir, de 20h à 21h, Alain Giresse,
légende des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France de football,
est l'invité de Jacques Vendroux.
Demain, à 9h moins le quart, Julia Vignali accueille Viggo Mortensen,
acteur du Seigneur des Anneaux et réalisateur du film Jusqu'au bout du monde,
en salle mercredi prochain. Et de 19h à 20h,
Nicolas Caro vous ouvre les portes de la bibliothèque de la navigatrice
Isabelle Autissier.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Chez But, ils ont un secret pour faire la cuisine encore plus facilement. Ah si, si, c'est possible. Vous avez envie de savoir, hein? Eh bien, tendez l'oreille.
En ce moment, chez But et sur But.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisine, plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Mais chut, ça reste entre nous. Conditions de l'offre en magasin et sur But.fr.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar, pays gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Avant de retrouver notre star Frenchie des effets spéciaux à Hollywood, eh bien on s'offre justement un petit peu d'Amérique avec le dernier titre de Beyoncé, Texas Hold'em.
This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a fake, come take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. With you, baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, solagenic, photogenic, shoot.
Texas Hold'em, oh that's gorgeous. C'était Beyoncé.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h-14h, Isabelle Morizet.
Deux Oscars et un génie d'honneur au festival en France des effets spéciaux, le Pitt Anguin. Je reçois Guillaume Rocheron, celui qui met du rêve, de l'émerveillement, de la folie dans les films des plus grands cinéastes actuels. Alors Guillaume Rocheron, le film qui donc vous a valu votre premier Oscar a failli ne jamais voir le jour. C'est l'Odyssée de Pi, fable magnifique, inspirée du roman de Yann Martel. Mais au départ, pourquoi j'ai dit qu'il n'a jamais failli voir le jour? Ça a commencé presque comme un film maudit qui est devenu un film culte. Au départ, Jean-Pierre Jeunet, à qui on doit le fabuleux destin d'Amélie Poulain, devait le réaliser. Et puis finalement, et ben finalement, on va dire que tout a terminé dans des placards. Que s'est-il passé?
Pour Hollywood, c'est ce que j'appelle un peu le film OVNI. Ça veut dire que c'est un film très compliqué à faire, qui coûte assez cher à fabriquer, et qui a toujours été un peu infaisable, on va dire. Et c'est vrai que pour les studios, on va dire, américains, c'est pas une franchise, ou c'est pas un investissement sûr, en fait. Et c'est vraiment une idée un peu folle, et un scénario très poétique, un film très poétique, qui,
oui, comme une fable philosophique sur les forces du bien, du mal, l'espoir.
Voilà, et c'est vrai que Hollywood fait rarement des films à gros budget comme ça.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est pour ça que le film a été, je pense que ça a pris une dizaine d'années pour que le film se lance vraiment, de trouver la bonne équipe.
Pendant 10 ans.
Oui, oui.
Oh, mon Dieu, incroyable. Alors, 10 ans. Et voilà que, alors que vous travaillez donc pour la Moving Picture Company, mmh, votre boss, un jour, vient vous parler d'un projet de la Fox. Alors justement, au bout de 10 ans, c'était le fameux film L'Odyssée de Pi. Et elle vous montre juste des dessins. Ouais. Et il paraît qu'en voyant ces dessins, parce qu'il y avait un storyboard avec juste des dessins comme ça crayonnés, vous vous êtes dit, mon Dieu, mais comment on peut s'y prendre pour donner vie à tout ça? C'est ça?
Oui, parce qu'un film commence souvent comme ça, donc le réalisateur explique sa vision en faisant un storyboard, qui est en gros une bande dessinée, on va dire, du film. Et c'est vrai que la première fois que je les ai regardés, je me suis dit, ah oui, là, techniquement, je ne sais pas comment on va faire ça, en fait.
Voilà, parce qu'il paraît que, en fait, vous, donc, vous étiez en charge des séquences de tempête sur l'océan, et le réalisateur voulait que les vagues aient des formes très, très particulières, n'est-ce pas? Donc, en fait, il parlait de l'océan comme s'il s'agissait de diriger un acteur. Et il paraît qu'il a fallu 2 ans de travail pour simuler cet océan hors norme, parce qu'il fallait que ce soit réaliste, mais en fait, les vagues allaient dans des sens particuliers, prenaient des formes particulières, se rebellaient comme si soudain elles étaient mues par une intelligence intérieure, invisible. C'est fou.
Oui, oui, non, et c'est l'exemple parfait de la technique et la technologie au service de l'histoire. Ça veut dire que c'était vraiment, voilà, on a ce challenge, voilà, avec mes équipes à MPC. On a travaillé pendant, on a fait 1 an et demi de recherche et développement pour créer les logiciels, pour créer les techniques qui nous permettaient de créer ces océans, en fait. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on a dû développer un peu toutes ces technologies. Aujourd'hui, ces technologies sont disponibles dans beaucoup de logiciels pour le grand public.
Ce que vous développez, ça c'est très intéressant. Après, les autres peuvent s'en emparer.
Voilà,
on va dire que c'est presque mis à disposition, mais pourquoi? En fait, vous déposez des brevets, ça se passe comment?
Disons que c'est pas qu'on dépose des brevets, mais c'est qu'on a trouvé la technique, et une fois que le film sort, on explique comment on l'a fait. Et après, voilà, tout le monde applique, on va dire, quand il y a une bonne idée et une bonne technique.
D'accord.
Ça devient un petit peu ce que les gens
d'ailleurs
utilisent.
Vous faites des masterclass, vous en avez fait au festival des effets spéciaux à Enghien, le PIDS, vous avez donné des masterclass. Et alors pour l'Odyssée de Pi, on parle des océans, mais fallait ensuite au sommet des vagues simuler l'écume qui devenait des bulles, qui devenait de la mousse, qui devenait de la vapeur. Mais quand on voit le film, bien sûr on en prend plein les yeux, mais pas une seconde, on peut imaginer les années de travail hallucinant, nuit et jour, pour faire tout ça. Alors, le film, il se déroule, on va dire sur grand écran, on pense qu'il se déroule sur le Pacifique, mais vous avez tourné dans une piscine creusée sur la piste de décollage d'un aéroport désaffecté à Taïwan.
C'est ça.
Ça fait moins rêver.
Oui, ça c'est l'envers du décor d'Hollywood. Non mais voilà, parce que ça nous permettait de mettre notre acteur de manière, et la caméra.
C'est ça, ben oui.
Voilà, ensemble, et on pouvait pas aller dans l'océan, au milieu de l'océan, tourner ça comme ça, et il fallait que notre acteur soit dans de l'eau, en fait. Donc l'idée c'était, voilà, on fait une piscine et on avait un fond bleu qui entourait la piscine complètement, et ça nous permettait de filmer l'acteur et le petit bateau, le petit radeau dans lequel il était, et après on a tout remplacé avec les océans, les ciels, voilà.
Le film sublime que tout le monde a pu voir. Alors Guillaume Rocheron, c'est une autre boîte que la vôtre qui a créé, tout en image de synthèse, le tigre fascinant, l'autre personnage effrayant, plus vrai que nature de l'Odyssée de Pi. En 2013, vous êtes donc allé avec le gars de Rhythm and Use chercher votre Oscar. Vous, c'était bien sûr pour votre travail sur l'océan et ses tempêtes, et lui, pour son travail sur le tigre. Mais alors, ce qui est complètement fou, c'est quand même que lui, il est allé chercher un Oscar quand sa boîte a mis la clé sous la porte. En fait, qu'est-il arrivé à Rhythm and Use? Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait faillite alors que il fait faillite, mais je viens chercher mon Oscar?
La réussite ou le succès d'une boîte n'est pas forcément sur un seul film. Ça veut dire qu'une société comme Rhythm and Use fait 5 films par an ou 10 films par an, je ne sais pas exactement à l'époque. Mais c'est vrai que c'était très malheureux au niveau du timing, on va dire, que cette boîte doive déposer le bilan au moment où on remporte l'Oscar pour ça, pour l'Odyssée de Pi. Mais c'est vrai que c'est un reflet aussi un peu de l'industrie, on va dire, des effets spéciaux, qui c'est très compliqué, parce que quand on fait un budget de film et quand on commence, on parle d'idées. C'est pas forcément toujours concret. Vous pouvez dire, bon, voilà, je voudrais une ville avec un énorme bâtiment. Et bon, l'interprétation de ce que c'est, peut être différente selon différentes personnes, on va dire.
Bien sûr, et puis les budgets sont souvent dépassés, c'est ça. Voilà. Vous êtes indépendant, vous avez créé votre propre boîte ou pas ?
Non, j'ai pas créé ma propre boîte. Je travaille avec une boîte qui s'appelle Deneg, maintenant. Ouais. Qui est une boîte anglaise aussi, une très grosse boîte d'effets spéciaux. Ils viennent de faire le Dune, qui est sorti au cinéma, Dune 2.
Avec notre charmant Timothée Chalamet,
voilà.
Et la belle Zendaya.
Voilà. Donc voilà, je travaille avec eux. Mais voilà, quand je suis sur un film, je suis celui qui est en charge de tous les effets spéciaux pour le film. Et voilà, je travaille avec, bien sûr, Deneg et avec d'autres compagnies, vraiment pour que... Voilà, c'est vraiment essayer de mettre la vision du réalisateur à l'écran et responsablement aussi. Ça veut dire que d'employer les bonnes personnes pour faire un certain type de travail, pour que, voilà, non seulement le résultat soit bien, mais aussi, voilà, tout le monde s'y retrouve.
Ouais. Alors, Guillaume Rocheron, aujourd'hui, on peut tout imaginer grâce aux effets spéciaux, mais... le public, donc, il a déjà presque tout vu. Alors, on ne risque pas une surenchère dont on pourrait rapidement se lasser ? Trop d'effets spéciaux, tuent les effets spéciaux ?
Absolument, je suis complètement d'accord. Et moi, ma philosophie, ces dernières années, ayant grandi dans les années 80 et dans le cinéma de Spielberg,
ouais.
Rencontre du troisième type, et voilà, E.T., et bon, voilà, Jurassic Park... où au final, c'est vrai qu'il y avait des effets spéciaux, mais beaucoup moins, et que c'était, on utilisait vraiment la structure de l'histoire et pour engager l'imagination du public. Et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, par exemple sur Nope, le film que j'ai fait avec Jordan Peele en 2022, où voilà, on essayait de montrer des choses un peu surréalistes, mais de toujours engager l'imagination de notre public.
Bien sûr.
Parce que c'est toujours...
Faut que le spectateur en fasse son travail d'imagination.
Absolument.
Il faut qu'il participe à l'aventure.
Absolument. Et c'est pas parce que vous pouvez tout faire qu'il faut le faire.
Vous avez évoqué E.T. à l'instant. Bon, on va pas parler d'effets spéciaux, parce que on était vraiment à l'époque pionnière de ça, n'est-ce pas ? Mais tout le monde a en tête l'image... infusée de poésie merveilleuse de ce petit garçon sur son vélo avec E.T. contre lui, volant voilà, sur fond de lune phosphorescente. Bon, ça, on peut même pas parler d'effets spéciaux aujourd'hui, tellement c'est la base de la base de la base. Et pourtant... Oui,
mais c'est ça, et c'est l'impact que les images ont sur le public. Et je pense que ça, c'est vraiment... c'est très important. C'est très important de penser... Comment on va dire renforcer cette histoire et créer voilà cet émerveillement. Moi je me souviens voilà quand j'ai vu E.T. ou quand j'ai vu Jurassic Park la première fois, c'est l'émerveillement absolu. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde sait que les effets spéciaux existent, tout le monde sait qu'il y en a partout, il y en a dans les séries, dans les pubs, dans les films, et donc voilà, il faut trouver autre chose dans la manière dont on les utilise pour que ce soit nouveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voilà, à chaque film, est-ce que je peux trouver quelque chose de nouveau, d'intéressant et d'unique, on va dire. On réussit pas toujours, mais j'essaye.
Quel métier extraordinaire. On fait une pause, on retrouve tout de suite Guillaume Rocheron sur Europe 1.
C'est Sonia Mabrouk.
Le grand rendez-vous Europe 1.
Demain, le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invité, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes. Le discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe, la bataille électorale qui s'accélère et l'enjeu de survie pour la droite. Sur tous ces sujets, rendez-vous demain sur Europe 1 et CNews.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Yeah, yeah. Wow, merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4€, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4€, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glouglou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
À tous les enfants qui ont découvert chez le poissonnier que non, les poissons ne sont pas carrés. À ceux qui posent la question « Pourquoi la glace ne fond pas sur les étals ?» Et à ceux qui se demandent pourquoi on dit moche comme un thon. Mais c'est pas moche un thon. Enfin, pas plus qu'un autre, quoi. Quand on voit la tête de la lotte. Jusqu'à samedi, Intermarché propose la longe de thon saumurée à seulement 13,79€ le kilo.
Intermarché, tous unis contre la vie chère. Transformé en France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Bien sûr, on va retrouver tout de suite notre star française Guillaume Rocheron, star des effets spéciaux à Hollywood. Mais juste avant, eh bien on écoute Christophe Willem, Double jeu. Bien sûr, c'était Christophe Willem. Alors n'oubliez pas, vous avez rendez-vous ce soir à partir de 19h avec la belle Laurie Choleva pour l'émission de cinéma Clap, puisque vous savez que Laurie, en fait, passe en revue toute l'actu ciné de la semaine, et toujours avec un invité exceptionnel. Tout à l'heure, ce sera Artus pour la sortie de son film. Un petit truc en plus. Nous aussi, on parle de cinéma puisqu'on retrouve la star française à Hollywood des effets spéciaux, Guillaume Rocheron.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Guillaume Rocheron, par vos effets spéciaux, vous avez mis de la magie dans Harry Potter, dans X-Men, Batman contre Superman, dans l'Odyssée de Pi, Godzilla, Ad Astra, aux confins du système solaire, avec Brad Pitt, dans 1917, le plus long plan séquence d'un film de guerre, et Nope, film de science-fiction horrifique. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Quand réaliserez-vous votre propre film?
Je ne sais pas.
Ah, voilà, c'est très intéressant. Ça veut dire que, quelque part dans un coin de la tête, l'idée est en train de germer.
Je ne sais pas si elle est en train de germer maintenant, mais bon, c'est toujours quelque chose à laquelle on réfléchit, mais c'est vrai que moi, je prends quand même énormément de plaisir au challenge de réaliser quelque chose qui n'est pas faisable. Et ce qui est vraiment très spécifique aux effets spéciaux. Quand vous êtes réalisateur, c'est vrai que vous avez beaucoup plus d'autres choses.
On est chef d'orchestre, voilà.
Alors que, voilà, moi, c'est quand même beaucoup plus spécifique à créer une partie, on va dire, du film qui, justement, je pense, peut amener le public vers quelque chose qui est vraiment unique et magnifique. Et j'aime beaucoup cet aspect-là d'être, de penser à ça. Et puis, voilà, j'aime beaucoup, voilà, travailler avec mes équipes. C'est pas juste moi sur un film, en général.
Quand vous dites mes équipes, ça comprend combien de personnes à peu près? 50, 80, 100, 200?
Ça peut être entre 700 et 1500 personnes.
Waouh! J'étais très, 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 très loin du compte.
Oui, non, ça demande beaucoup de personnes. Ouais. Parce que tout est fait. Et c'est un peu aussi une fausse conception qu'on a des effets spéciaux, c'est que c'est l'ordinateur qui fait le travail. Alors que s'il y a tous ces artistes dont on a besoin pour faire le film, c'est vraiment parce que c'est le travail des artistes qui est représenté à l'écran. L'ordinateur est juste l'outil.
L'intelligence artificielle n'a qu'à bien se tenir, alors. Voilà. Bon, sur quel projet travaillez-vous en ce moment, Guillaume Rocheron ?
Pas encore annoncé, donc voilà.
C'est contractuellement, vous êtes tenu au silence.
Oui.
Bon, d'accord. En tout cas, les projets de grande envergure, à gros budget, pour un public international, on les trouve davantage en Amérique qu'en France, n'est-ce pas ? Est-ce que la France, même si elle excelle dans ce genre, est, j'ai envie de dire, condamnée aux films d'auteurs intimistes et sociaux ?
Non, je pense pas. Enfin, c'est toute une question d'économie, on va dire. Ça veut dire que les films à gros spectacle coûtent plus cher à faire, et donc il faut avoir un public qui soit international pour le faire. C'est vrai que la tendance a été souvent, voilà, les films à grand public doivent être en anglais pour être vus par tout le monde. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a vu quand même beaucoup de changements, on va dire, avec les films qui viennent du monde entier, qui deviennent des cartons aux États-Unis et qui deviennent des cartons un peu partout autour du monde. Donc j'espère que, voilà, dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus de films de grande envergure, voilà, qu'on va pouvoir produire en France.
Parce qu'il y a une question de budget, hein. J'ai appris qu'en moyenne, le budget d'un film américain avec effets spéciaux est 10 fois supérieur à celui d'un film français avec effets spéciaux. 10 fois plus de budget.
Oui, alors je dirais pas que c'est toujours le
en
cas.
En moyenne, voilà, paraît-il.
Voilà, mais parce que, après, voilà, si vous prenez la moyenne des films, il y a des films américains qui sont très très gros. Vous prenez Avatar, qui a...
Alors là, c'est un budget de combien, de centaines de millions de dollars?
Je sais pas, c'est à 300 millions de dollars, je sais pas exactement. Hein. Mais donc voilà, là, vous êtes dans le 10 fois plus.
Et puis, peut-être que les productions étrangères sont dubitatives devant les 35 heures et le coût des charges sociales qui règne en France, non?
Ça, je sais pas. Mais on va dire que, par exemple, pour les boîtes d'effets spéciaux, je sais que, voilà, maintenant, il y a de plus en plus de productions internationales qui viennent faire leurs effets spéciaux en France. Maintenant. Et ça commence à vraiment à se développer de plus en plus. C'est vrai que ça a stagné pendant une dizaine, quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a un attrait parce qu'il y a les crédits d'impôt pour les productions.
Oui.
Et je pense que, voilà, les studios sont un peu moins frileux à l'idée de travailler.
Ça, c'est
pas
une
forcément
bonne chose.
En anglais.
Voilà, pas forcément en anglais. Bon, Hollywood a eu, il y a très peu de temps, sa première très, très, très longue grève de scénaristes. Est-ce que ça a impacté votre agenda?
Oui, ça a impacté l'agenda de tout le monde.
Ouais.
Parce que c'est vrai que ça a duré, au final, ça a duré presque 6 mois. Et voilà, pendant ce temps-là, bon, il n'y avait rien qui se faisait, en fait.
Et après, tout est décalé. Et après, peut-être que certains films, d'ailleurs, qui devaient voir le jour, ne le verront pas parce que, en priorité, on fait passer les grosses productions qui ont du retard.
Oui, pas forcément. C'est plus, est-ce que les acteurs sont encore disponibles?
Ah oui!
Est-ce que l'équipe est disponible? Parce que, voilà, en général, quand vous faites un film, vous réservez vos acteurs pour, on va dire, 3-4 mois. On va le tourner entre avril et juillet. Et bon, si tout à coup vous repoussez ça de 6 mois ou de 7 mois, bon, voilà, la prochaine disponibilité des acteurs va être repoussée.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que tout le monde a dû reconceptualiser comment lancer leur film, en fait. Et ça se relance, on va dire, doucement encore. Ça n'a pas encore reparti très vite, parce que c'est vrai que ça a été assez compliqué.
Les scénaristes ont eu gain de cause ?
Les scénaristes ont eu gain de cause. Les acteurs ont eu gain de cause aussi. Ce qui est une bonne chose. Je pense que, voilà, que tout le monde soit payé de manière correcte et importante.
Plus équitable.
Plus équitable. Et surtout dans un monde qui a beaucoup changé avec, avec les, le streaming.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
Qui est très différent des droits télé comme ils étaient négociés avant. Donc c'est vrai que.
Oui, toutes les plateformes.
Voilà, tout ça, ça a changé, on va dire.
Et les films restent longtemps sur les plateformes. C'est pas comme dans un cinéma où le film peut quitter l'affiche 15 jours après s'il ne rencontre pas son public, comme on dit.
C'est ça.
Mais sur les plateformes, ça peut rester un an, deux ans, il n'y a pas de problème.
Voilà, et puis comment est-ce que vous négociez les droits d'auteur, etc. Donc ça a été très compliqué, et bon voilà, maintenant c'est résolu. Mais voilà, parce qu'on est dans une industrie qui a été en profond changement, avec, accélérée par le Covid, bien sûr, qui, plus personne n'allait au cinéma, donc voilà, tout le monde a mis les films sur les plateformes, et c'est vrai que ça a beaucoup changé comment on produit des films. Ça, on a fait beaucoup plus de séries, on a fait beaucoup plus de contenu qui était fait pour être vu à la maison plutôt que d'être vu au cinéma.
Voilà, voilà. Guillaume Rocheron, est-ce que l'Inde et la Chine montent en puissance dans le secteur des effets spéciaux ?
Oui, l'Inde a toujours... ça fait une bonne quinzaine d'années que l'Inde joue une partie très importante dans les effets spéciaux.
Plus que la Chine ?
Oui. Plus que la Chine pour le moment,
oui.
Parce qu'il y a ils ont excellente, on va dire, formation technique pour les artistes, et c'est vrai que voilà toutes les boîtes, on va dire, les compagnies d'effets spéciaux internationales ont des bureaux un peu partout autour du monde, à Londres, à Vancouver, à Montréal, à Los Angeles, en Inde aussi, et le travail est réparti, on va dire, souvent entre les différents studios, parce que il faut énormément de monde pour faire tout ça. Et c'est vrai qu'en Inde, on a trouvé il y avait du talent, la capacité de faire des choses compliquées techniquement et artistiquement. Donc voilà, tout le monde maintenant ils font partie intégrale du réseau global.
Voilà.
Voilà des boîtes d'effets spéciaux.
Vous venez de citer Vancouver. Il paraît que le truc en fait pour vraiment faciliter les marchés, c'est d'installer ses bureaux dans une ville sur le même fuseau horaire que Los Angeles, dont Vancouver, oui. N'est-ce pas ? Donc Hollywood.
Voilà.
Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile. Avec Paris, on a 9 heures de décalage. Si on met ses bureaux à Vancouver, et ben avec Hollywood, même fuseau horaire. Nickel.
Ouais, ça aide.
Ça aide. Bon, cher Guillaume Rocheron, hélas, le temps file, on arrive à la fin de cette conversation. J'aimerais bien savoir, quand vous rêvez, Guillaume, quand vous rêvez sans effets spéciaux ou avec effets spéciaux ?
Avec, toujours.
Avec, c'est vrai. Bah alors, la vie vraie doit vous paraître morose.
Au contraire.
Non ?
Au contraire, parce que l'inspiration vient toujours de voir... Des choses magnifiques dans la vie réelle. C'est vraiment c'est très difficile d'imaginer quelque chose qui va sembler être réel à un public si y a pas, vous ne prenez pas inspiration dans le monde réel et dans la nature et dans ce que vous pouvez voir. Donc voilà, c'est tout est toujours basé sur quelque chose que vous avez vu, que vous pouvez observer, et c'est là où votre imagination peut prendre le dessus, mais ça doit, il y a toujours quelque chose qui pour que voilà le public y croit. Il n'y a rien de mieux que d'observer le monde autour de nous.
Bon, vous repartez très vite à Hollywood, c'est ça ?
Ah oui, je repars dimanche.
J'aime bien dire Hollywood plutôt que LA, parce que comme ça, voilà, on sait exactement. Bon, eh bien écoutez, bon vol, et on attend alors le fameux projet secret sur lequel vous bossez, mais que contractuellement, vous ne pouvez pas encore dévoiler. Merci infiniment, en tout cas, de nous avoir ainsi parlé de votre métier qui est absolument passionnant. Et je rappelle à nos amis auditeurs que cette conversation est à réécouter sur europe1.fr. Merci Guillaume Rocheron.
Merci de m'avoir reçu.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Il était une fois un prince et sa bien-aimée
en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi. Et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au musée Guimet avec Europe 1.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé